Il y a plus de 20 ans, Pika Éditions publiait ses premiers volumes de manga en France. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte plus de 1800 titres à son catalogue et continue de nous faire connaître des œuvres rassemblées autour d'une idée, la création et l'inspiration japonaise. Un manga, c'est environ 350 grammes de papier, de dessins, de dialogues, mais c'est surtout un long voyage autour du monde, des auteurs japonais jusqu'à nos mains de passionnés en France. Et pendant ce voyage, des tas de petites mains se relaient pour réussir l'exploit de nous faire découvrir tous ces personnages qu'on va adorer ou adorer détester. Bienvenue dans le Pika Podcast, un nouveau format que la maison d'édition Pika, spécialisée en manga, a choisi pour vous faire vous aussi voyager et retracer le trajet de vos mangas préférés. Je suis Amandine, et je serai votre hôte durant toute cette saison pour lever le voile sur le mystère de l'adaptation ou de la création d'un manga. Et pour commencer ce voyage, nous allons remonter un petit peu dans le temps, remonter aux origines, avec Mehdi Benrabah, directeur éditorial chez Pika Éditions. Mehdi exerce ce métier secret mais pourtant essentiel depuis 6 ans chez Pika, mais travaille dans le manga depuis 13 ans. Mais surtout, il est tombé dans la marmite du manga il y a près de 20 ans. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Et bienvenue dans le Pika Podcast. On commence aujourd'hui avec toi Mehdi. Tu es directeur éditorial chez Pika Éditions, donc tu es la première chaîne, le premier maillon, après bien sûr les auteuristes et les dessinatrices de manga, donc c'est toi le premier maillon. Que va affronter entre guillemets un manga avant d'arriver chez nous ?
C'est vrai que moi mon travail en premier lieu, il intervient très en amont, donc je suis un peu le garant, je dirais, la bonne ligne éditoriale de Pika, que tout ce qu'on publie soit cohérent, en accord avec notre catalogue et aussi en accord avec le marché. Et du coup, moi, mon premier travail, c'est la prospection, la veille, en fait, de tout ce qui est publié au Japon. Ça vient vraiment à l'obsession. Faut vraiment que je sache, dès lors qu'une série est annoncée, que je me renseigne, voilà, de quel auteur il s'agit, dans quel magazine c'est pré-publié. Parce que chaque magazine au Japon a vraiment une couleur éditoriale, on y reviendra peut-être au long de l'émission. Mais voilà, je m'emploie vraiment à traquer tout ce qui sort et à voir vite si ça peut avoir un sens pour le catalogue de Pika et aussi un sens évidemment pour le marché. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'à partir du moment où une série est, je dirais... voilà, on est prêt à faire une offre sur une série. Là, voilà, c'est réunir tous les éléments, préparer une offre financière, avoir la bonne approche éditoriale auprès de l'éditeur japonais, penser un plan marketing si nécessaire avec le service marketing de Pika, de façon à lancer une opération séduction et de réussir à obtenir le titre en question auprès de l'éditeur japonais. Et enfin, avec mon équipe éditoriale, en coordination éditoriale, en production, tout mettre en œuvre pour sortir le livre, voilà, dans les meilleures conditions, autant du point de vue de la traduction, voilà, choisir le meilleur partenaire pour assurer la traduction d'un titre, le lettrage, la création du logo, le design de la couverture, voilà, orchestrer un peu la sortie en France.
Donc finalement, t'es le premier maillon, mais tu vas aussi suivre les mangas jusqu'à leur sortie en France, et puis sans doute un petit peu après.
Je mets un peu mon nez partout, c'est vrai, parce qu'on voit qu'ils sont le gars est partout. Pour ce qui est du suivi éditorial, je m'en remets vraiment à mon équipe qui me sollicite quand il s'agit d'opérer des choix. D'un point de vue éditorial, voilà, des choix de traduction, d'adaptation, ce genre de choses. Mais une fois que le livre est sorti, voilà, je m'emploie à le défendre, à en parler. Ah oui, il y a aussi quand même, j'ai oublié, une partie aussi très importante qui est la présentation à nos équipes commerciales. Mmh. Pour leur donner les bonnes clés de compréhension, les bons arguments commerciaux, éditoriaux, marketing, pour que eux-mêmes puissent aller convaincre les libraires dans lesquels, enfin les librairies dans lesquelles nos livres sont diffusés.
Et finalement, c'est un peu ce dont tu dois parler aussi quand tu fais des lives sur Twitch, par exemple, où tu vas défendre justement un nouveau projet qui va sortir chez Pika.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que comme je suis vraiment en amont de l'arrivée de ce titre en France, j'ai eu le temps de m'en imprégner, de lire, de pouvoir en fait en parler, d'en être le référent aussi bien en interne chez Pika quand il s'agit de présenter le titre aux autres services pour qu'eux-mêmes puissent le défendre. Et puis après, voilà, à l'extérieur, auprès de journalistes, de lecteurs, même des fois, si on peut les croiser en salon, pour les convaincre d'acheter nos titres. Ça m'arrive moins souvent, mais c'est un peu ça. C'est être le référent des titres dont j'ai fait l'acquisition.
C'est un peu tes bébés, quoi. Tu les connais vraiment par cœur.
Et je n'en renie aucun.
Je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout au début. Tu as parlé de ligne éditoriale et je me dis que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu plus exactement qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale?
C'est vrai que finalement, une ligne éditoriale, c'est un petit peu l'ADN d'un éditeur. Ça veut dire une sorte de constellation de titres, de mangas qui pourrait définir un éditeur. Et c'est vrai que dans le cas de Pika, ce qui est assez chouette, c'est que c'est un éditeur qui existe depuis plus de 22 ans et qui a vraiment, qui touche encore à tous les styles de manga. C'est-à-dire qu'on ne se ferme à aucune catégorie. Il y a beaucoup de mangas que j'édite où je sais que je suis pas le public, mais par contre je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y a un public qui attend ce genre de contenu, notamment en shoujo. Donc je m'emploie à aller le dénicher et à tenter de proposer aux lecteurs ce qu'ils aiment lire. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on parle de ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a des succès, des auteurs phares qui sont associés à Pika, donc à la couleur éditoriale de Pika. Et du coup, moi, je m'emploie à prolonger ces lignes, à entretenir en fait ces catégories de titres dans lesquelles Pika a eu un succès. Et à contrario, j'essaye aussi d'en ouvrir d'autres, d'ouvrir en fait le catalogue Pika à des genres qui ont moins fait la renommée de notre maison, si je peux parler en ces termes. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est une constellation de titres qui définit un éditeur.
Et du coup, ça peut être, enfin, en l'occurrence, que tu l'as dit, Pika Édition, c'est beaucoup de genres de mangas, entre guillemets, différents. Donc, ça peut faire partie de la ligne éditoriale de Pika, en fait. C'est de toucher à tous les genres, finalement.
Ouais, parce que ce qui me passionne dans le manga, c'est que les mangas peuvent traiter de tout. Mmh. Absolument toutes les thématiques peuvent être abordées en manga. Alors, à savoir si elles sont bien abordées ou mal abordées, ça va être notre rôle en tant qu'éditeur de procéder à un écrémage. Et essayer de sélectionner le meilleur, parce que j'ai pas dit que tout et n'importe quoi pouvait sortir en manga, mais bon, des fois il y a des choses dispensables, je pense. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut vraiment mettre un manga entre les mains de n'importe quel lecteur. Ceux qui n'en lisent pas sont pas encore au courant qu'ils peuvent aimer ça. Honnêtement,
c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, puisque moi, quand j'ai commencé à lire du manga, c'était vraiment que pour les ados ou pré-ados, et puis maintenant c'est pour les enfants, les adultes plus âgés, etc.
Ouais, il y a beaucoup de titres qui ont ouvert la voie à des thématiques vraiment grand public. Et en ça, Pika, qui a du coup qui offre vraiment un choix extrêmement large en termes d'éventail de titres, C'est voilà, c'est passionnant de bosser dans une telle maison d'édition. On ne se refuse rien.
C'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que finalement, tu l'as dit en pointillé et ouvertement aussi, tu vas choisir des mangas que toi tu ne lirais pas, parce que c'est ton métier en fait d'aller chercher ce qui va plaire à d'autres publics. Et ça, c'est une facette que je pense que les gens ont peut-être pas forcément en tête, c'est que ton métier finalement, c'est pas que de choisir ce que t'aimes bien. C'est vraiment de répondre à des besoins et à des attentes.
Ah, clairement pas. Moi, je n'édite pas que pour moi. Alors évidemment, j'ai une sensibilité qui va s'exprimer à travers mes choix, forcément. Mais je pense avant tout au lecteur, et je suis toujours là en train de me dire, tiens, qu'est-ce que le public a envie de lire? Et si jamais c'est une thématique qui, moi, ne me parle pas, c'est pas ça qui va me freiner. Au contraire, je vais m'intéresser, tenter de comprendre, cerner en fait les attentes de telle ou telle tendance et essayer d'y répondre au mieux. Je trouve pas que faut pas que ce soit un métier égoïste, à mes yeux. On n'exprime pas que ses goûts, je dirais, à travers les titres qu'on édite, mais par contre, une certaine couleur, ça oui. Certaines atmosphères de titres, il y a un lien un peu ténu entre tous les titres que j'acquiers, je pense.
Du coup, être directeur éditorial, c'est faire des choix, globalement.
c'est ça.
Et mais très longtemps avant la sortie en librairie française, est-ce que tu peux nous donner un temps moyen entre l'acquisition d'une licence, et encore là, c'est déjà avancé, puisque tu l'as dit toi-même avant, il y a la prospection, et le moment où ça arrive entre nos mains en France.
C'est une excellente question, mais qui n'a pas vraiment de réponse figée. Ça va vraiment dépendre des titres, de la stratégie qu'on a derrière tel ou tel manga acquis. En fait, quand on veut aller vraiment très vite, il y a des titres qui, à partir du moment où ils sont acquis, peuvent sortir 6 à 7 mois plus tard.
Ouais, très vite, c'est déjà long.
Eh ben, pourtant, on est dans un délai vraiment rapproché, parce qu'il faut mettre ça en regard avec le contrat qui est établi avec l'éditeur japonais. Tout ça peut prendre du temps à partir du moment où l'offre est acceptée. Ben voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes du contrat, les signer, etc. Et quand ces échanges-là sont faits, quoique de nos jours, ça va quand même beaucoup plus vite. On peut signer en digital les documents. Et c'est vrai qu'on gagne un temps précieux. Et à partir de là, des factures peuvent être dressées pour payer le matériel dont on va avoir besoin pour éditer nos livres. Donc, le matériel sous format digital, les planches du manga tout simplement, le matériel de couverture, les livres physiques en eux-mêmes, on en a besoin aussi pour les transmettre à nos traducteurs. Quand ils sont basés au Japon, nos traductrices et traducteurs peuvent se procurer les ouvrages directement sur place. Donc ça peut nous faire gagner du temps. Et il y a aussi cette étape, cette fameuse étape où, évidemment, on va avoir besoin de laisser suffisamment de temps aux traducteurs, traductrices de pouvoir faire, gérer la traduction. Ensuite, il va y avoir le lettrage qui va être fait par nos studios qui sont là aussi des partenaires extérieurs. Donc tu vois, tout ça mis bout à bout prend quand même pas mal de temps. Et du coup, voilà, on en vient à cette fameuse étape où il faut présenter l'ouvrage à nos forces commerciales. Et ça, c'est fait entre 4 et 5 mois avant la sortie du livre, parce que nos équipes commerciales sont des représentants qui vont faire le tour de toutes les librairies de France et autres pays francophones pour pouvoir placer nos livres. C'est quelque chose qui prend nécessairement du temps. Il y a vraiment un planning assez incompressible de mise en œuvre. Comment dire, à partir du moment où une série est signée, il va falloir un temps minimum pour préparer la sortie auprès des libraires, auprès des forces de vente. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs au-delà de la chaîne, simple chaîne éditoriale.
Alors, on en parlera dans les épisodes prochains, du coup, tous ces métiers qu'il y a entre deux, avec les intéressés. Et donc, tu disais 5 à 7 mois, si c'est rapide.
Voilà, à partir du moment où une série est acquise, ouais, je dirais entre 6 et 7 mois. Allez, 7 mois, on va dire. Mais il y a aussi, des fois, on laisse passer un an, voire un peu plus. Ça peut arriver. Quand on met au frigo une série, dans l'attente d'une possible adaptation en animé, dans l'attente d'un meilleur timing de sortie. Aussi parce que on a des, par exemple, en Love Comedy, on parlait de ligne éditoriale qui pouvait identifier Pika. La Love Comedy ou la Rom-Com, ou appelons ça comme on veut, c'est un genre dans lequel Pika a pas mal excellé et continue d'exceller.
Est-ce que tu penses à des choses comme Lovina, par exemple?
Comme Lovina, si on parle de titres un peu référents. Plus récemment, on peut aussi parler de The Quintessential Quintuplets ou de Kaguya-sama. Là, je peux d'ores et déjà te dire que j'ai dans mon portefeuille de titres déjà acquis des prochaines Love Comedy et des mangas de Love Comedy qui sont en train de monter au Japon. Et rien ne sert de les publier là, dès maintenant, enfin en tout cas dans un délai court autour de 7 mois, parce qu'il y a déjà d'autres Love Comedy qu'on entend bien défendre cette année ou l'année prochaine, donc par exemple Couple of Cuckoos qui est sorti cette année. Voilà, il y a déjà des titres de Love Comedy qui sont en cours, pas besoin d'en sortir 4-5 dans l'année, mille en même temps, aucun intérêt. Laissons plutôt grossir les séries héritières dans ce genre-là. Parce que c'est un peu ça aussi ma préoccupation, c'est quand on arrive à se faire connaître et avoir un succès dans telle ou telle ligne éditoriale. Donc là, on parlait de Lovecom, ça pourrait aussi être la fantasy ou la magie avec l'atelier des sorciers, ou une thématique grand public comme l'art avec Blue Period. À partir du moment où on a des bons résultats dans ces catégories-là, moi, mon obsession, c'est de me dire, bon, c'est super, mais il y a un moment donné où ces séries vont s'arrêter, ou un moment donné où ces séries, on va rattraper le rythme de publication au Japon. Du coup, je me dois de trouver des séries héritières de ce sillon qu'on est en train de creuser. Donc, c'est aussi ça dans ma logique, c'est-à-dire que il y a des titres déjà acquis qui vont publier, mais le moment venu, quand il y aura un passage de relais à opérer entre deux séries d'une même catégorie.
Donc c'est pas qu'une question de titres intéressants, c'est aussi une question vraiment de balancer le catalogue avec pas que des hits en même temps et de pouvoir aussi ménager les efforts entre guillemets du reste des équipes tout au long de l'année.
Exactement. Pour parler vulgairement, on se garde des cartouches en vue, bah voilà, des années de publication à venir, parce que si on envoie tout en même temps, bah déjà le public ne va pas suivre, on risque de lasser le public. Et on préfère, dire, ah bah écoutez, si vous avez aimé telle série du catalogue, et ben vous aimerez telle autre série à venir.
Mm-hmm. Tu l'as dit aussi un petit peu en filigrane avant. Je pense qu'on n'aura pas les secrets de la marmite Pika aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment s'opère le choix ? Donc t'as parlé effectivement de teinte, de ta propre sensibilité, mais aussi de ce qui marche ou pas au Japon. Mais est-ce qu'il y a aussi des fois des coups de cœur, de l'instinct sur quelque chose qui marche pas encore, mais qui pourrait marcher plus tard, les charts au Japon ?
Franchement, il y a un peu de tout ce que tu viens de citer. Je pense que ce qui est très important pour un éditeur comme moi, c'est de surveiller les tendances, être vraiment à l'affût de ce qui plaît. Parce que les éditeurs japonais sont très forts pour se copier.
Ah oui?
À partir du moment où il y a une thématique qui prend un peu au Japon, tu peux être sûr que des dérivés vont sortir chez d'autres éditeurs.
Moi, je pense aux isekai, par exemple.
C'était peut-être le meilleur exemple à proposer. Mais voilà, il y a tout un tas de thématiques, de choses qui sont très dans l'air du temps. Et les éditeurs japonais se copient sans vergogne là-dessus. Et voilà, au bout d'un moment, c'est pas mal d'avoir des titres qui sont les plus précurseurs, dans telle ou telle tendance. Parce que souvent, ce qui suit est peut-être un peu moins bien. Donc ça, c'est important. Après, il y a vraiment du feeling. Ça arrive de se dire, bon, là, peut-être que tel genre n'est pas représenté en France, mais là, j'y crois et j'y vais à fond. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que d'acquérir un titre alors qu'il n'a pas de buzz. Et que quand là, tout le monde s'en empare sur les réseaux sociaux, que voilà, au Japon, c'est un succès critique et commercial. Bon, là, on est très content d'avoir réussi ce petit hold-up. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Il y a quand même de l'instinct. Et après, ensuite, si je reviens aux bases, comme je disais, Pika, c'est un éditeur qui existe depuis 22 ans. Donc, à partir de là, il y a des auteurs phares du catalogue. Il y a une vraie politique d'auteur qu'on veut appliquer. Donc là, naturellement, on va continuer de développer des auteurs. Quand ce sont des auteurs à succès, évidemment qu'on les suivra toute leur carrière. Mais même quand c'est des auteurs où ils n'ont pas réussi à trouver leur public, on continue de les défendre. Et quand ça nous paraît important, voilà, on lâche pas nos auteurs.
Si vous les avez choisis, c'est qu'il y a une raison. Donc ça paraît logique de continuer à les suivre finalement.
Et c'est d'autant plus logique que un auteur peut très bien avoir des méventes sur une série et puis la série suivante c'est un succès. Je pense souvent à Nakaba Suzuki avec Kango Boncho qui n'a pas forcément été auréolé d'un grand succès, puis après il a enchaîné avec Seven Deadly Sins. Les séries se suivent et se ressemblent pas dans la carrière d'un mangaka. Donc, je parle pas de qualité de série, hein. Je parle vraiment de savoir si une série a trouvé son public ou pas.
Mais c'est aussi, l'impact que pourrait avoir une maison d'édition française, puisque finalement, vous pouvez éditer des titres qui ont été édités il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans au Japon, parce que le public français n'était peut-être pas prêt à ce moment-là non plus.
C'est des questions qu'on se pose, c'est vrai. Il y a pas de date de péremption pour ces séries. C'est vrai que telle thématique n'avait peut-être pas sa place il y a quelques années et que là on se dit que le public peut être prêt. C'est une forme de risque, mais oui, on se repose très souvent la question. Tous les titres que j'ai, comme je te disais en amont là de l'émission, tous les titres que j'ai scanné avec mes outils, que j'ai répertorié ou quoi, je les ressors souvent en me demandant, est-ce que c'est le bon moment ou pas.
J'y pense, que je le vois derrière toi, et parce que ça répond à ma spécialité, mais par exemple, Mizuki est un auteur ancien, qui n'est plus parmi nous malheureusement, mais qui a un succès en ce moment en France parce qu'il est sur une thématique qui commence à boomer. Et donc, ouais, ça fait partie de ces questions-là aussi. Est-ce qu'on réédite des anciens titres? Là, la réponse est oui, manifestement. Et je crois que le dictionnaire des yokai s'est plutôt bien vendu en plus. Donc, il a vraiment trouvé une résonance.
Ah, complètement. Bah, c'est-à-dire que là, on parle d'auteurs qui doivent, c'est une obligation, exister dans le paysage manga français. À partir de là, il faut trouver la bonne idée, le bon format, la bonne approche éditoriale. Et c'est vrai que le dictionnaire des yokai est quelque chose... voilà, c'est un beau fait d'armes à l'échelle de Pika, et qui témoigne encore une fois de la diversité du catalogue. Voilà, on a parlé
de... C'est pas un manga à proprement parler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une encyclopédie, en fait, des yokai, donc le folklore japonais.
Exactement, mais c'est tellement imprégné de... des mangas de Shigeru Mizuki, que c'est un prolongement de ces mangas finalement. C'est une petite annexe.
Donc, pour revenir un peu sur le sujet du coup de la direction éditoriale, on parle presque de divination, j'ai l'impression, puisque tu parlais de 6 à 7 mois minimum, donc ça peut être, je suppose, un an et demi peut-être. Finalement, tu dois un peu deviner qu'est-ce qui va marcher plus tard, comment va se trouver le marché.
Écoute, on essaye d'anticiper au maximum, mais après, il y a quand même des grands genres dont on sait que, voilà, dont on sait que le public est toujours friand. Donc il y a toujours des catégories de mangas où, voilà, en particulier le shonen, là il n'y a pas vraiment de mystère, c'est la catégorie qui se taille la part du lion dans les ventes de mangas en France, au Japon comme ailleurs, mais néanmoins ouais, il y a des fois des paris qu'on tente sur certaines thématiques, certaines tendances, et bon, écoute, des fois on se plante, mais des fois on a aussi du nez. C'est ça qui est intéressant là, en tout cas avec le lectorat de nos jours, c'est que c'est très balisé, le manga. Là, je parlais de shonen, il y a vraiment des titres qui sont formatés, mais ça n'enlève rien à leur qualité. Hein. Mm-hmm. Mais voilà, ils doivent répondre aux attentes du public, un vrai cahier des charges dans ce que le public va attendre en termes de graphisme, en termes de typologie de personnages, en termes de narration, d'action, de démonstration de force badass, etc. Mais on a aussi un public qui est de plus en plus ouvert, et on a des succès qui sont de plus en plus surprenants, parce qu'en fait, voilà, moi, ça témoigne d'une appétence du public et qui va s'ouvrir à des thématiques auxquelles il s'ouvrait pas avant. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour un éditeur comme moi de se dire que des fois, voilà, on va prendre des paris et des fois, on est vraiment agréablement surpris.
Tu parles d'anticiper le marché et quelque part, t'as anticipé ma question d'après qui était, est-ce qu'on peut pas créer des tendances aussi?
Ah ben, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un petit côté, on va essayer d'éduquer le...
Bah, oui, je comprends pourquoi tu l'aimes pas, oui.
Bah, ça fait prétentieux, mais là, j'ai rien qui me vient...
Ouvrir l'horizon.
D'aiguiller. Voilà, ouvrir l'horizon de mettre le doigt sur des titres qui méritent vraiment d'être lus, qui doivent être lus, parce que beaucoup d'auteurs à succès là de nos jours se réclament de ces auteurs qui sont incontournables. En ça, voilà, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on a un public de plus en plus ouvert, même sur des œuvres plus patrimoniales. Voilà, ça c'est un vrai plaisir de se pencher sur ce genre d'opportunité. Et puis, au-delà de ça, on épouse des tendances, mais on essaie d'en créer aussi. Là aussi, on a tout un tas de titres vraiment différents les uns des autres. Et je reviens un peu à la Lovecom. C'est vrai que c'est souvent un genre qu'on a trouvé un peu casse-gueule, un peu compliqué. Pourtant, voilà. Chaque année, là aussi, chez Pika, on avait des titres de love comedy. Alors, certains ont eu beaucoup de succès, que ce soit Kaguya-sama ou Les Quintuplettes. D'autres ont eu un succès plus confidentiel, que ce soit Make Me Up, Romeo versus Juliette ou autre. Mais en tout cas, c'est un genre qu'on n'a jamais lâché, comme pour dire, attendez, c'est incontournable au Japon, on doit vous le proposer en France. Vous verrez, ça va finir par péter. Et bon. Les dernières tendances, enfin les derniers résultats ont prouvé qu'on a eu raison de s'accrocher là-dessus.
Écoute, t'anticipes encore ma prochaine question, c'est incroyable.
On n'a rien préparé.
Je suis juste. qui était justement comment on fait pour balancer parce que on a, tu l'as dit, des titres phares, des titres hits, l'attaque des Titans ouais. par exemple, Blue Lock, Blue Period, voilà des choses qui ont explosé et qui marchent du tonnerre. Mais on a des titres un petit peu plus confidentiels entre guillemets ou des genres comme tu disais avec la rom-com. Est-ce que c'est un petit peu compliqué? Comment ça se passe quand on veut balancer entre des gros titres et des petits titres dans un catalogue?
Bah, c'est vrai que tout est question d'équilibrage. Il faut juste être au clair sur le pourquoi des collections qu'on a au catalogue, et elles sont nombreuses chez Pika. Par exemple, voilà la collection Pika Graphique avec une autrice comme Kabi Nagata. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est-à-dire que c'est une auteure qui a un tel propos, c'est autobiographique, c'est très courageux la façon dont elle se met à nu sur ses doutes, ses angoisses, sa propre sexualité, ses névroses. C'est tellement fort chacun des titres qu'elle propose qu'on tient absolument à continuer de la défendre jusqu'à ce que finalement quelque part le lecteur puisse ouvrir les yeux, si j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est le genre de combat qu'on s'emploie à mener, mais forcément dans la collection Piqué Graphique c'est pas la collection la plus alimentée du catalogue. Comme c'est plus on est plus sur des ouvrages qui ont des succès critiques et qui du coup visent des sélections pour des prix voire remporter des prix tout court, on va être beaucoup plus attentif sur le choix des auteurs qui vont alimenter cette collection. Et du coup, voilà, on sait que cette collection-là existe pour le côté qualitatif que Pika veut proposer. Et à côté de ça, bah voilà, on va avoir effectivement un Blue Lock et encore Blue Lock, j'ai envie de dire, peut-être qu'on l'a senti aussi le coup venir, parce que un manga sur le foot, à la base, sur le marché français, on m'aurait dit garde la pêche, il va rien se passer. Et pourtant, moi j'ai très vite senti avec Blue Lock qu'il y avait autre chose, il y avait le côté Battle Royale bien sûr, on a beaucoup communiqué là-dessus, parce que c'est un mot pratique pour aller droit au but, mais une fois que les gens lisent, on s'aperçoit que là, voilà, on a des joueurs qui sont complètement possédés par l'envie d'être le meilleur, par les coups de Trafalgar qu'ils peuvent se faire, et pourtant ils doivent faire équipe pour surmonter les épreuves. Il y avait un tel traitement des personnages avec en plus un style graphique qui épouse totalement le propos du scénariste. On s'est dit, bah voilà, que ça parle de foot ou de ping-pong. Franchement, c'est sûr, on a envie d'y croire, le lecteur va accrocher et c'est bien ce qui s'est passé.
Un manga psychologique de sport, finalement.
Bah, c'est un peu l'anti-football, quoi. Et tout ce qui est fédérateur et doit rassembler dans le football, bah là, faut oublier. Et en tout cas, voilà, ce genre de titre qui porte Pika, moi, je tiens vraiment à, en quelque part, réinvestir, je dirais, dans des collections plus challenge, comme Pika Graphique. C'est très important d'observer cette balance pour juste témoigner de la diversité du manga, en fait. Comme on le disait.
Pika Graphique ou la collection Pika Masterpiece qui, elle, pour le coup, va redonner une lumière à peut-être des œuvres qu'on a un peu oubliées, mais qui pourtant sont fondatrices, en fait, dans le milieu manga.
Ah, bah, clairement. Clairement, et mais après la comparaison avec Pika Graphique est pas vraiment exacte, parce que quelque part sur Pika Graphique on sait qu'on va aller un peu chercher le lecteur de BD, quoi, finalement.
Ah, c'est à la croisée des mondes, quoi. C'est quasi
ouais, un peu ça, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher on propose du grand format déjà en Pika Graphique, et on va aussi se favoriser, je dirais, des auteurs qui ont une patte à même de plaire aux amateurs de romans graphiques, de BD en général, comme un Jiro Taniguchi, par exemple. On est très très fiers de pouvoir proposer des œuvres inédites à ce format-là. Là où Pika Masterpiece a quand même plus d'ambition, dans le sens où là, c'est vraiment juste ce qu'on estimait être des chefs-d'œuvre qu'on va remettre au goût du jour, qui peuvent plaire, en fait, finalement, même à des plus jeunes lecteurs. Là où Pika Graphique, on sait quand même qu'on vise un lectorat adulte, voilà, à même d'investir un peu plus dans des beaux objets. Là, Pika Masterpiece, c'est aussi ça, mais on estime que voilà, c'est des titres qui sont toujours dans l'air du temps, finalement, parce que bah, si on prend un peu le porte-étendard de cette collection qui est Rokudenashi Blues chez Shueisha, voilà, on parle beaucoup de furio manga en ce moment, le manga de délinquants juvéniles, si on devait traduire littéralement. Au final, on est sur une thématique très prisée. Là, c'est une façon de dire, bon, bah là, on revient aux bases. on revient aux bases de ce genre-là qui plaît. Avec Rokugudai Nashi Blues, voilà une œuvre incontournable que vous devez avoir lue. C'est un petit peu ça le pari de Pika Masterpiece.
Il y a d'autres œuvres qui vont arriver dans Pika Masterpiece, mais je pense que tu peux pas trop nous en dire pour l'instant. Il y a eu un petit peu de teaser dans la description de la collection avec des genres qui donnent envie, hein. Ça part de Cyberpunk, je crois, de choses comme ça. Mais est-ce que t'as un petit teaser quand même pour les gens qui nous écouteraient?
Ah, c'est dur. Là, c'est un peu compliqué de faire une annonce, mais c'est vrai que ouais, sur 2023, je peux vous dire que on va être sur un titre vraiment de Death Game incontournable, qui met en scène voilà un personnage qui a inspiré d'autres œuvres en la matière, je dirais. Et ouais, je suis là, j'ai très très hâte de l'annoncer, mais ça, ce sera prêt.
Pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui. Mais en tout cas, la promesse, c'est que voilà, on a quand même commencé avec le retour de Masanori Morita. Rokugudai Nashi Blues était très demandé. Voilà, là, l'idée, c'est de rester en fait à ce niveau de hype, si je puis dire. Voilà, il y a quand même beaucoup de surprises là qui vont arriver sur Masterpiece. J'ai très hâte d'en reparler avec toi, mais ce sera sur un prochain podcast.
On va passer à la pique à question. Ça va être la question, entre guillemets, de milieu de podcast pour faire une petite pause dans le gros sujet, parce que c'est une discussion dense et passionnante. Une question un petit peu plus perso. Quel est, selon toi, le manga le plus sous-coté qui mériterait un petit peu plus d'amour et d'exposition?
Alors, écoute, côté pique, j'en ai deux qui me viennent. Le premier, c'est Les Brigades Immunitaires, qui est vraiment un titre, mais tellement chouette. Pour le décrire très rapidement, il était une fois la vie updaté, où on suit en fait un globule blanc, un globule rouge dans un corps humain, non identifié, mais qu'importe, ce qu'il faut, c'est survivre aux problèmes quotidiens que va traverser cet organisme. Et au boulot en fait que vont faire globule blanc et globule rouge pour aider ce corps. Et c'est autant un shonen d'action hyper nerveux, parce que globule blanc, quand il défonce les microbes, il y va avec un couteau de Rambo, quoi.
D'accord.
Ça peut être ça charcle vraiment des fois. Et en même temps, bah à chaque page, on en apprend plus sur les microbes qui s'en prennent à l'organisme. Il y a à chaque fois un encart qui fournit une explication scientifique, mais tout à fait digeste, des mots là qui s'en prennent au corps humain, des cellules qui le protègent, et en fait on passe un super moment, et en même temps on en apprend énormément sur notre propre organisme. Donc ce titre là était un gros phénomène au Japon, ça a très très bien marché, et je regrette souvent qu'il n'ait pas trouvé son public en France, parce qu'il y avait tous les ingrédients pour mêler divertissement.
C'est un neketsu éducatif.
Un peu ça, ouais. Et ludique, c'est exactement ça. Et c'est vraiment très chouette. Et alors le spin-off, Les Brigades Immunitaires Black, où là, on est dans un organisme, mais en mauvaise santé totale. La personne fait vraiment n'importe quoi. Et du coup, on a des cellules vraiment qui galèrent pour survivre jour après jour, et aussi très savoureux. Donc il y a celui-là qui me vient, parce que c'était un vrai coup de cœur. Pour le coup, là, tu vois, c'était un pari, mais loupé.
Ah, il y a sûrement des gens qui l'ont apprécié. T'es pas le seul non plus de France à l'avoir aimé, quand même.
Ouais, mais pas assez, parce qu'il y a même eu une adaptation en animé de qualité. Enfin bon, voilà, je trouve
c'était
que ça serait...
peut-être pas le bon moment pour le
Écoute,
coup.
Écoute, peut-être. C'est difficile du coup, après, avec le recul, de savoir ce qui a péché. Donc celui-là me vient, et il y a The Witch and the Beast, aussi dans notre collection Seinen, qui est vraiment pour le coup totalement sous-coté. C'est un titre où on suit un exorciste et une personne qui a été maudite par une sorcière, et qui traque en fait, qui essaie de retrouver en tout cas la sorcière qui l'a maudite. Et on est dans une voilà, il y a une ambiance, c'est très feutré, c'est très voilà, ça fait beaucoup penser à l'Angleterre victorienne, parce qu'on dit pas clairement où se passe l'action, mais c'est un monde qui nous fait penser à ça, en tout
le
cas.
Le chara-design est super, je trouve que ça fait un peu Lovecraftien dans la façon dont c'est sur les couvertures dont c'est présenté.
Il y a de ça, il y a une vraie finesse. Enfin, chaque couverture, c'est une gifle, honnêtement, c'est d'une élégance sans nom. Et quand on ouvre le livre, ben, c'est très nerveux, il y a beaucoup d'actions, des sorts. Ça revisite vraiment le mythe de la sorcière, mais de façon très, voilà, très élégante, très stylée. Et pour autant, voilà, ça n'a pas la rayonnance que ça devrait avoir à mon avis. Il faut plus d'amour pour The Witch and the Beast, s'il
donc
vous plaît.
Deux conseils lecture pour les auditeurs qui seraient un petit peu curieux de découvrir des licences finalement un petit peu plus discrètes du catalogue.
Exactement, ouais.
Maintenant qu'on a parlé du comment du Pika maintenant, on peut peut-être parler un petit peu entre guillemets du Pika du passé. On a parlé de Pika Masterpiece un petit peu plus en détail juste avant. Mais la question que je me pose, et toi qui as l'expérience, tu vas le savoir, c'est est-ce que le manga est intemporel? Est-ce que tout vieillit bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vieillissent beaucoup moins?
J'aurais tendance à dire que le manga a cette capacité à proposer des œuvres très iconique en fait, c'est-à-dire que il y a un soin très 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 particulier qui est apporté au chara-design, aux attitudes, au pouvoir, au style en fait des personnages de manga, des items aussi qu'ils utilisent et du coup c'est un vrai terrain de jeu pour quiconque voudrait exploiter en merchandising ces codes-là, parce que c'est un peu ça qui fait que, à mon avis, une œuvre va durer dans le temps. C'est est-ce que le cercle est complet? Est-ce que on a un manga qui a trouvé son public avec un dessin animé qui a eu un effet démultiplicateur sur les ventes et l'exposition de ce manga? Puis par la suite, est-ce qu'on a un merchandising intelligent qui a été déployé pour vraiment enfoncer le clou et encore plus exposer le manga et ses ventes? Et quand ce cercle vertueux est atteint, bah, on a des choses comme Sailor Moon, qui pour moi traverse les époques. Alors oui, il y avait le dessin animé à l'époque de Club Dorothée, mais si c'était pas un personnage aussi iconique, avec tous ses codes facilement, je dirais, exploitables, notamment en merchandising, bon bah voilà, ce serait pas l'œuvre intemporelle qu'on connaît. Voilà, on a d'autres exemples du genre. Moi, je trouve que GTO avec Onizuka, c'est totalement iconique et du coup, on a une œuvre qui se maintient très très bien au catalogue. On est toujours très surpris de voir à quel point Onizuka
ça fonctionne encore.
Continue de fonctionner. Ouais, on a un spin-off qui est toujours en cours, Paradise Lost. Et puis,
je pense à Sakura,
ouais.
Moi, parce que c'est un animé manga de mon enfance et aujourd'hui encore, ça fonctionne. Quoi.
Sache que Sakura va très bien. sa nouvelle série Clear Card Arc est un vrai succès chez nous et puis même au Japon bien sûr. Mm-hmm. Et là aussi tu vois voilà à Sakura on pense tout de suite évidemment à sa petite bouille, le côté kawaii, mais pas que, aux familiers qui l'accompagnent, aux items qu'elle utilise pour se transformer, enfin les Magical Girl en vrai ce sont des bons exemples d'œuvres intemporelles parce qu'iconiques.
Quand j'habitais au Japon, j'étais choquée à quel point ça continuait à se vendre en merchandising, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui sortait, mais juste, voilà, c'est intemporel et
c'est là.
On est fan, on est encore fan.
C'est dans l'inconscient collectif. Alors moi, j'aime beaucoup Sakura, mais mes références, c'est plus au Kutonoken. et c'est vrai que je suis toujours trop content de voir, quand je vais au Japon, de voir à quel point c'est mis en avant dans... les pachinko ou voilà les game center et tout, on a toujours un bon gros Rao sur le point d'affronter Kenshiro. Bon voilà, ça aussi c'est très iconique, ça demeure. Mais voilà, l'attaque des Titans est en train de devenir une œuvre intemporelle à sa manière, que ce soit les blasons des bataillons d'exploration ou des différents
même
bataillons
du manga. Même en
France,
pas plus tard qu'hier, j'ai croisé quelqu'un avec un t-shirt avec un bataillon d'exploration.
Mais oui, et là pour ça, on va faire une petite pub, mais merci Célio qui pour la première fois avait son stand à Japan Expo. Et qui fait de super collaborations avec...
De plus en plus. Côté masculin, côté féminin, je crois que c'est Jennifer, la marque qui fait pas mal de collections manga aussi.
De l'Attaque des Titans, ouais. Jennifer a une belle ligne, collection d'Attaque des Titans. C'est pareil pour Célio, avec d'autres mangas aussi. Donc tout ça participe finalement à faire que ces œuvres sont intemporelles parce que tout un tas de codes sont repris. Il y a des références. Et voilà, il y a des gens qui sont contents d'avoir ça sur eux, de l'afficher. Moi-même, j'ai mon petit pull capuche Attaque des Titans, voilà.
Moi aussi.
Évidemment. Évidemment. J'ai repéré leur dernier polo. Ouais, bon, je vais le prendre, oui. Les gens le portent sur eux et ça, tout ça participe à faire que ces œuvres, bah ouais, traversent les générations.
Ne vieillissent pas.
Tout à fait.
Du coup, les lecteuristes au Japon et en France de manga, ils ont la même passion, hein, du manga. On est souvent d'ailleurs cité, notre pays, comme second consommateur. Alors, je sais pas, j'ai jamais vu les chiffres, hein, mais je l'entends tout le temps. Second consommateur de manga dans le monde. Mais les lecteuristes, c'est pas les mêmes. Donc, est-ce qu'il y a, justement, on en parlait, hein, de hit ou flop, certaines licences qui ont marché au Japon, n'ont pas marché en France, ou inversement, n'ont pas marché au Japon et ont décollé en France?
Alors, ça arrive quand même souvent que... alors, oui, de toute façon, c'est pas une légende. Hein. Il y a des titres qui sont des hits au Japon qui peuvent se casser le nez en France. L'inverse est un peu moins vrai, mais on aime bien citer Fairy Tail, qui proportionnellement, en fait... Mm-hmm. A eu un plus gros succès en France qu'au Japon.
Intéressant.
C'est-à-dire que voilà, c'est ça, longtemps fait partie du trio de tête des mangas les plus vendus en France, Fairy Tail. Mm-hmm. Statut que la série a pas connu au Japon. C'était quand même dans les très gros hits, hein. Mais à ce point dominant sur un marché, voilà, c'était plus important en France qu'au Japon. Donc ça, c'est un exemple qu'on aime bien citer. Après, il y a beaucoup de hits. Enfin, voilà, le fait qu'un manga soit un hit au Japon ne veut pas dire qu'il va cartonner en France, loin de là. Il y a beaucoup de thématiques auxquelles, malheureusement, nos lecteurs français sont un peu
moins sensibles.
Ouais, moins sensibles. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Hein. Franchement, encore une fois, la Lovecom en train de prendre une autre dimension en France.
Bon, on parlait Lovecom, on a parlé de Blue Lock tout à l'heure, manga de sport. Le manga de sport, c'était une niche. Hein. Ça a longtemps été quand même relativement discret, confidentiel. Mais c'est devenu ces dernières années quelque chose de beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus d'exposition. Est-ce que tu penses qu'il y a des niches actuellement qui sont destinées justement à devenir des genres à part entière plus tard, dans un avenir proche ou lointain ?
Écoute, ça c'est un bon exemple. Pour le coup, oui, je suis d'accord pour dire que des succès d'aujourd'hui, bah, c'était un peu les niches d'hier. Le manga de Furio en est un bon exemple, le manga de délinquant. C'est vrai que chez nous, on n'a pas attendu Tokyo Revengers pour savoir que c'était un style important et majeur du manga, parce que ce soit avec Young GTO ou GTO, c'est un style qui a jamais quitté notre catalogue finalement et sur lequel on a toujours eu un œil. Mais c'est vrai que bah, pour parler du manga de sport, voilà, nous il y a une collection de sport qu'on développe chez Pika et qu'on essaye de défendre selon l'actualité sportive qu'il peut y avoir en France ou dans le monde. Mais bon, ça reste un pari parce que c'est très dominant au Japon. Les mangas de baseball, pour ne citer que, sont légion et il y a beaucoup de succès en la matière. Évidemment, en France, ce serait pas possible de reproduire ça.
Il y a une différence culturelle aussi. Le baseball, c'est le sport au Japon, quoi. C'est quelque chose en France qui est pas trop pratiqué pour le coup, le baseball.
Complètement. Complètement, donc ça servirait à rien d'essayer de reproduire ça, mais bon, on verra dans quelques années quand ce sport peut-être explosera et que ce sera peut-être le meilleur moment. Voilà, par exemple, pour des titres qui mériteraient plus d'exposition, on voit là de plus en plus de, et ça c'est un genre qui marche très bien au Japon, c'est des mangas d'arts martiaux, en fait des mangas de combat et plus en particulier des mangas de MMA, donc de Mixed Martial Arts, ou free fight, ou combat libre, c'est la même chose. C'est une discipline, en fait, qui est la synthèse de toutes les formes de combat existantes. Et ça, c'est de plus en plus populaire en France, et c'est clairement un style qui, là, aurait beaucoup plus de succès de nos jours en manga. En témoignent voilà, des organisations comme l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, qui est l'organisation reine dans cette discipline-là, qui se produit partout dans le monde, et qui s'est même produit à Paris, donc... Si tu veux, voilà, il y a aussi un bon timing qu'on essaie de viser pour ce genre de contenu. Mm-hmm. Et je pense clairement que, voilà, par exemple, un style comme les mechas, qui est un genre de manga qui est peu populaire. Je pense qu'avec le temps, voilà, c'est un style qui devrait, à mon avis, s'imposer dans les années à venir parce que au moment où on a publié ce genre de titre. Je pense que c'était pas juste le bon moment.
Le public était peut-être pas encore prêt à ce genre de titre un petit peu plus niche justement que.
C'est ça, c'est que c'est beaucoup plus ancré dans la culture japonaise et c'est donc du coup plus propice au succès. Mais avec le temps, c'est des styles qui intéressent notre lectorat et c'est un lectorat qui s'intéresse vraiment à tout, qui a une très grosse appétence. Et qui, voilà, les moyens maintenant de se renseigner avec Internet sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple, en fait, de s'emparer d'un genre et de réclamer un titre pas disponible en France.
Et de trouver ta communauté aussi, puisque c'est pas le tout d'aimer un genre, faut trouver d'autres personnes qui aiment ce genre.
Exactement, c'est ça.
Les genres, justement, c'est un gros sujet dans le manga, ça a toujours été. Moi, j'ai connu le manga, il y avait que Shoujo et Shonen, et maintenant t'as pléthore de genres de manga. Est-ce que ces genres-là sont toujours les mêmes? Que dans leur titre d'origine, dans leur licence d'origine, est-ce qu'il y a est-ce qu'on réétiquette certaines licences quand elles arrivent en France pour qu'elles trouvent un autre public ou pour les adapter au marché? Comment ça se passe dans cette décision en fait dans le processus éditorial?
Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose toujours parce que c'est important de se référer aux magazines d'origine d'une série, mais les magazines au Japon, les magazines de prépublication voient quand même leur ligne éditoriale pas mal chahutée avec le temps. Il y a des fois des séries qui arrivent, on peut le dire, par accident dans certains magazines et qui du coup perturbent un peu la ligne éditoriale du mag. Donc c'est un petit peu dur de savoir sur quel pied danser. Cette étiquette-là, avant de la poser, on se pose vraiment la question. On sait que c'est quelque chose d'utile aux libraires. C'est quelque chose qui, voilà, pour catégoriser, pour s'y retrouver dans ces rayons. À mon sens, on n'a pas le choix que de, bah voilà, d'avoir les différentes classes shonen, seinen, shoujo, même si pour beaucoup d'auteurs, ça n'a aucun sens, en fait. Moi, je me rappelle de l'auteur de l'Atelier des sorciers, quand elle était venue en France parler de sa série, de son métier, de sa vision, en fait, du manga. Bon, pour elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de décrire des trajectoires, des destins de personnages. Elle est dans un magazine seinen et du coup, bah, tout peut arriver dans son manga. Mais elle se moque bien de l'étiquette qu'on peut lui apposer. Et c'est vrai qu'un des exemples les plus symboliques pour la question que tu me poses, c'est l'Attaque des Titans. Qui vient du Besatsu Shonen Magazine et qui, comme son nom l'indique, est un magazine shonen. Pika, au moment de publier l'Attaque des Titans, a choisi de le catégoriser en seinen. Et moi, si j'avais été aux manettes en 2013, à mon poste de directeur éditorial, j'aurais opéré le même choix. Parce que dans cette série-là, et dès le premier chapitre, il y a quand même, voilà, psychologiquement, les personnages encaissent et très fort dès le départ. Il y a une dimension assez noire propre à la série qui fait que la classification en seinen, elle est tout indiquée.
Il y a de la violence physique et mentale, c'est assez intense, l'Attaque des Titans quand même. Mon petit frère était assez jeune quand il l'a lu, mais c'est vrai que moi aussi j'aurais peut-être plutôt orienté ça pour au moins des jeunes adultes, quoi, parce que c'est vrai que...
Ah, il y a des passages clairement choquants, on va pas se mentir, mais bon voilà, l'essentiel c'est que c'est vraiment au service d'une psychologie très profonde de chacun des personnages, et du coup ce traitement-là fait que la classification en seinen, pour moi, elle était tout indiquée. J'ai un peu de mal à voir coexister en librairie un tome de Fairy Tail et un tome de l'Attaque des Titans. Pour moi, voilà, c'est aussi une façon de ne pas se couper du lectorat seinen, de l'avoir mis en seinen justement, qui peut-être va considérer que les shonen sont
trop jeunes
ou déjà vus, ou voilà, on va être dans le neketsu classique. Le seinen, c'est la catégorie qui permet, voilà, d'être la plus large possible, et c'est vraiment pour moi un bon choix, même s'il peut être contesté parce que l'Attaque des Titans vient d'un magazine shonen. Mais faut pas oublier que dans le Besatsu Shonen Magazine, il y a aussi Flying Witch, qui est un titre feel good nobi nobi. Bon, bah voilà, ça témoigne un peu de la ligne éditoriale un peu chahutée qu'a eu le magazine, ou peut-être un choix délibéré de l'éditorial qui, à un moment donné, choisit ce genre de titre pour avoir une respiration dans le magazine, pour pas avoir que des titres noirs et sombre comme l'Attaque des Titans. Ça peut aussi être délibéré. En tout cas, c'est un peu l'exemple le plus symbolique de qu'est-ce qu'on fait. on suit ce que le magazine, enfin voilà, en tout cas le magazine d'origine, où on essaie d'adapter ça au lecteur qu'on veut toucher.
Parce que pour celles et ceux qui le découvriraient, au Japon, les mangas sont publiés, pré-publiés en fait, sous forme de chapitres dans des magazines hebdo ou mensuel, je crois que ça dépend selon...
Ça dépend, il y a hebdomadaire comme mensuel, bimensuel, il y a de
et
tout.
Et qui du coup ont souvent une étiquette de genre qui fait qu'effectivement on va les cloîtrer entre guillemets à ce genre. Donc là tu disais par exemple l'Attaque des Titans, ce serait potentiellement un shonen selon en tout cas la classification du magazine où il est, mais qui peuvent être différents selon le contenu, on va dire ça comme ça.
Mais c'est exactement ça, et puis... l'argument souvent qu'on m'oppose, c'est mais Eren, le personnage principal, il a une attitude totalement shonen, c'est un shonen. Mais la vraie question, c'est que je me dis qu'en fait Isayama, l'auteur, s'en moquait bien de tout ça et a mis des ingrédients, qu'on peut attribuer au shonen ou au seinen dans sa série et peut lui importer tant qu'il racontait l'histoire qu'il avait envie de raconter. Après, c'est plus un choix d'éditeur. Et pour le marché français, moi, je trouve que c'était judicieux de le classer en seinen.
C'est des questions qu'on abordera sans doute sur nos épisodes dédiés au commerce ou au marketing, parce que c'est des vraies questions qu'on se pose, je suppose, quand on doit vendre un manga. Comment on va le vendre? Quelle facette on va lui donner, en fait? Et ça doit pas être facile de prendre cette décision-là. Je vous souhaite bien du courage.
Clairement, on n'a pas la science infuse et on prétend pas avoir toujours eu avoir toujours opéré les bons choix. Mais en tout cas, on a de quoi argumenter si la question nous est posée.
J'ai une dernière petite question bonus pour toi dans cet épisode, parce que tu es du coup en contact direct avec les mangas en japonais. Et il y a une question de puriste qui revient souvent quand on lit des mangas, c'est est-ce que tu es plutôt pour le titre à la japonaise, avec la prononciation japonaise, ou à la française?
Alors écoute, c'est une question qui mérite d'être posée, hein, j'imagine. En fait, pour moi, c'est juste qu'il ne peut pas y avoir de demi-mesure. C'est que si on a décidé de dire un titre VO à la japonaise, alors dans ce cas-là, il faut tout dire à la japonaise, les noms d'auteurs y compris.
Oui.
Pour moi, voilà, si tu dis Shingeki no Kyojin, il faut dire Toriyama Akira, et dans ce sens-là, parce que c'est d'abord le nom de famille avant le prénom. Enfin, pour moi, c'est un tout. Si on veut se la jouer puriste, autant le faire jusqu'au bout. Personnellement, ouais. Je trouve que l'accent français a un charme fou. Et même en anglais, j'appuie un peu sur cet accent français.
Alors, voilà. La bonne presse.
Ouais, là, honnêtement. Alors, quand on s'adresse à des Japonais, c'est peut-être un peu différent, parce que selon la prononciation, ils peuvent ne pas comprendre de quel titre on veut parler. Mais sinon, franchement, détendons-nous. Hein. Je suis pas trop partisan pour...
J'ai toujours dit Eren Yeager, et ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des puristes.
Ah ouais, et puis alors... prononcer à la japonaise des mots en katakana, du coup, issus d'une langue étrangère comme l'anglais, là, du coup, je comprends pas.
Chacun voit.
Autant dire le mot anglais. Voilà, c'est un choix personnel. Personnellement, je milite pour l'accent français.
C'est noté. Et du coup, je pense qu'on a bien exploré le sujet, une discussion vraiment passionnante avec beaucoup de sujets différents traités. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un petit mot avant de clore pour aujourd'hui?
Eh ben, déjà, je tiens à te remercier.
Merci à toi.
Ravi de cette première avec toi. C'était très agréable comme format. Et sinon, j'encourage nos lecteurs à ne pas se fermer. De porte en manga, c'est vraiment un médium qui est très vaste. On peut tout aborder en manga, et voilà, ce que nous on essaie de proposer chez Pika, c'est l'éventail le plus large possible dans toutes les catégories là qu'on a pu évoquer toi et moi. Donc voilà, j'encourage nos lecteurs à être toujours plus curieux, et ça motivera des éditeurs comme moi à toujours prendre plus de risques éditoriaux. Voilà.
On vous mettra bien entendu toutes les références de manga, et il y en a pas mal qu'on a cité dans la description, si jamais vous êtes curieux, et en particulier tes recommandations du coup. Merci de ta présence, Mehdi, et de tes réponses pour ce premier épisode. On va te laisser retourner au travail, hein, dénicher les perles manga de demain, et puis les plus discrets.
Ah ouais. Tout à fait.
Lourd travail en perspective, en dehors de tes heures.
C'est le problème des métiers passion, hein.
Oui, je connais, oui.
Elle ne t'apprend rien.
Nous, on va se retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode du Pika Podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur vos applications de podcast préférées, à poser vos questions en commentaire ou bien sur les réseaux de Pika Édition. On prendra un grand plaisir à y répondre dès le prochain épisode. Et puis surtout, prenez soin de vous et à bientôt dans le Pika Podcast.